L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Donc bonjour à tous, je suis avec Branislav Peric à la maison. On se connaît depuis un petit moment avec Branislav, je ne saurais pas dire. Je pense que quand tu étais chez Duke et moi j'étais chez Vangsen de mémoire. Je suis pas très sûr.
Une dizaine d'années ?
Une dizaine d'années, un truc comme ça. Et depuis quelques années, tu as créé une agence qui s'appelle Wiz, qui est un nouveau modèle d'agence.
C'est ça.
Tu l'as créé quand ?
Il y a deux ans et demi environ.
Il y a deux ans et demi. Et en fait, dans un déjeuner, on discutait ensemble du digital et en particulier de la situation de la Chine et de la Silicon Valley et de l'Europe. Et une des choses sur lesquelles on est tombé assez d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le centre du monde du digital, c'est pas forcément la Silicon Valley, mais la Chine, et que finalement, même si en Europe on regarde assez peu la Chine, enfin pas beaucoup la Chine, à part ceux qui travaillent vraiment avec la Chine, on se rend compte que la feuille de route de pas mal de startups dans la Silicon Valley, y compris Facebook, et surtout Facebook, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant, sont en train de copier ce qui se passe en Chine, en fait. Donc toi, j'aimerais savoir ce que t'en penses de ça, ce que t'as à dire là-dessus, mais aussi qu'est-ce que ça implique pour nous et qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de la Chine.
Tout d'abord, merci pour l'invitation, Greg. Et la Chine est un sujet, je trouve, fascinant de nos jours depuis 3 ou 4 ans environ, depuis ça coïncide avec l'arrivée de WeChat en Chine. Ouais. Je trouve que à tous les étages de la fusée digitale, dans toutes les catégories et de projets et de sujets data, de sujets contenu, la Chine propose une réalité, un dynamisme dans ce qui se passe sur tout ce qui est digital, qui en avance par rapport à ce qu'on vit dans le reste du monde. Toi comme moi, on a grandi à une époque où les US on lorgnait tous sur ce qui se passait aux États-Unis. On a des amis en commun d'ailleurs aux États-Unis qui nous servaient un peu de phare il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, la plupart des tendances lourdes, profondes viennent de la Chine. Et je trouve qu'on est, on y a une forme de nombrilisme en Europe et notamment en France, dans un grand pays.
Peut-être c'est un nombrilisme occidental quasiment.
C'est occidental, mais c'est, je pense, particulièrement vrai en France, en Allemagne, dans les grands pays coloniaux et historiques.
Historiquement,
c'est que la Chine, on nous a peu enseigné son histoire, on connaît mal sa culture, on connaît mal l'évolution substantielle de son économie ces 15 dernières années, et pourtant on sait que l'économie chinoise est devenue extrêmement puissante, et elle n'est pas juste un pays émergent désormais dans toutes les catégories, sur le commerce, mais aussi sur les acteurs du digital. Il y a une vraie avant-garde en Chine qui a dépassé très nettement ce qui se passe aux États-Unis. Et je trouve que c'est quand même dommage aujourd'hui qu'un Zuckerberg puisse parler de feuille de route pour Facebook Messenger sans parler du fait qu'il a plagié en grande partie la roadmap de WeChat.
Il va pas le dire. En fait, moi, au début, quand ils ont fait ça, je me suis dit que c'était surtout pour rentrer en Chine, parce qu'ils ont échoué en fait sur l'entrée en Chine avec Facebook. Mais au final, tu te rends compte que non, en fait, c'est là vraiment la roadmap pour l'intégralité des pays et donc l'intégralité du produit. Mais il n'y a pas que Facebook, évidemment. Là, on parle de Facebook parce que c'est sans doute le site le plus connu. Ce que je trouve effectivement intéressant, c'est qu'en Occident, en particulier en Europe, donc comme tu le disais, on regarde assez peu la Chine, à part les gens qui y travaillent ou qui travaillent avec la Chine. Toi, je pense que tu as pas mal travaillé avec la Chine quand tu bossais chez L'Oréal. C'était aussi à ce moment-là que tu as réalisé...
Oui, absolument, et ça a été une révélation. Hein. Pour tout dire, c'est que j'étais le directeur digital et médias et e-commerce du travel retail, donc du business aéroport et avion de L'Oréal. Et il est vrai que le voyageur chinois est un shopper, la première nationalité acheteuse dans les aéroports du monde entier. Et la Chine a été un focus très fort pour moi et une grande découverte, parce que j'ai appris à quel le poids du e-commerce en Chine, que comment les Chinois ont zappé le desktop au profit du mobile, comment les Chinois ont zappé le commerce au profit du e-commerce, parce qu'en dehors de Shanghai, Pékin, Guangzhou et quelques villes, dans beaucoup de villes chinoises, tiers 2, tiers 3, aujourd'hui on retrouve relativement peu de commerce, ou un commerce assez chaotique, des marchés, c'est le règne du C2C aussi, hein, c'est que Alibaba, un des premiers gros acteurs chinois, ringardise totalement, je trouve, depuis plusieurs années, des sites comme Le Bon Coin ou comme eBay, parce que c'est dans la culture des Chinois que de vendre, que d'échanger, que de faire du commerce.
C'est vrai.
Et il y a une... Quand on commence à s'y intéresser, quand on met le doigt dedans, ensuite ça devient forcément quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance et qui donne un peu le là de ce que sera certainement un futur proche ou moyen terme dans le reste du monde et notamment en Europe.
Et alors du coup, tu disais en Chine, le mobile s'est imposé, l'e-commerce s'est imposé, le C2C s'est imposé, etc. Tu as des exemples un peu rigolos, tu me parlais des marchés par exemple où les gens utilisent leur mobile ou WeChat pour payer.
Oui, alors ce qui, moi j'ai plusieurs images dans ma banque d'images que j'aime beaucoup montrer à mes clients ou aux gens qui s'intéressent à ces sujets. On voit un paysan, notamment dans une photo, donc le visage complètement
brûlé
par le soleil et par la terre, donc un vrai paysan du fin fond de la Chine. Et il a son petit étalage avec ses patates sales hein, qu'il a même pas pris la peine de laver, et il y a un QR code et il encaisse sur WeChat Pay les paiements de tout un chacun qui lui achète des marchandises. Et ça, c'est la Chine, c'est-à-dire que ils ont sauté toutes les étapes et c'est prégnant à tous les étages du pays, et de ce fait ça rejaillit sur le reste du monde, parce que ça définit, au même titre que les Américains ont inventé beaucoup de choses sur les métiers du digital et sur sur ce business, la Silicon Valley notamment, ils sont en train de tout chambouler et de tout réinventer à leur propre sauce.
Il y a aussi un élément dont tu m'as parlé qui était le fait d'avoir des QR codes. Donc ce que tu me disais, c'est que finalement même le paysan du coin en Chine fait ça.
Les Chinois l'ont intégré de manière vraiment fine. On retrouve des shops avec moins d'assortiments, moins de références, moins d'options. Mais quand il y a moins d'options, il y a plus d'options via le e-commerce. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le O2O, le offline to online, online to offline, c'est répandu de manière massive chez les Chinois. On peut acheter dans une boutique en scannant un QR code d'un produit qui n'est pas disponible dans la boutique et se le faire livrer en e-commerce. Commander sur internet des choses et se les faire livrer dans les boutiques. JD, qui est un peu l'équivalent d'Amazon en Chine, est en train de faire une révolution logistique en Chine pour autoriser la même vitesse de livraison que peut le faire un Amazon Prime en France ou en Europe, mais à un niveau des villes tiers 2, tiers 3, c'est-à-dire toutes les villes hors Shanghai et Pékin où la livraison est déjà rapide et pas chère. Mais il y a un vrai bouleversement sur ces notions de O2O qui pour nous sont encore un peu... c'est une réalité dans certains business. Hein, des affaires comme Sephora font déjà beaucoup de click and collect, de réservations sur Internet pour livraison en magasin.